midi 31 sur France Culture. Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le Sri Lanka multiplie depuis ce matin les arrestations dans sa traque de suspects liés aux attaques suicides de Pâques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique et qui ont fait près de 360 morts.
Plusieurs pays africains réunis sous la houlette de l'Égypte ont appelé hier à une transition pacifique et démocratique d'ici 3 mois au Soudan.
Oui, un délai nettement plus long que les 15 jours accordés récemment par l'Union africaine aux militaires pour céder le pouvoir.
Au Brésil, Lula restera derrière les barreaux, mais moins longtemps que prévu.
La Cour supérieure de justice a ramené à 8 ans et 10 mois contre 12 la peine de prison prononcée contre l'ancien président placé en détention pour des faits de corruption.
Si en France, plusieurs listes de gauche concourent aux élections européennes, l'après-scrutin ouvrira-t-il la voie au rassemblement ?
Ce matin, le chef de file de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, dit vouloir unir la gauche dans une fédération populaire si les élections lui en donnent la force. Une semaine après les premières révélations sur les soupçons de fichage de gilets jaunes dans les services d'urgence de l'assistance publique, hôpitaux de Paris, l'hebdomadaire Canard Enchaîné publie aujourd'hui des extraits de ce fichier prouvant qu'il comporte des informations relevant bien du secret médical. Enfin, celui qui avec sa banane gominée et ses bottes de cow-boy s'était composé de toutes pièces un personnage de rocker, crooner à la française, le chanteur Dick Rivers est décédé aujourd'hui à l'âge de 74 ans. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Alors que la réforme Blanquer a été adoptée en première lecture à l'Assemblée, qu'elle est maintenant du côté des sénateurs, on va parler du métier de prof avec notre invité. Les bons profs, c'est le titre de l'ouvrage qu'il publie. Il sera donc avec nous pour essayer de comprendre quelles sont les pédagogies à mettre en place, quelle est l'expérience qu'il a, lui, accumulée. Aymeric Patricot est avec nous dans la deuxième partie de l'émission.
Merci et à tout à l'heure. Parce que les cibles choisies dimanche dernier au Sri Lanka, des églises en pleine messe, mais aussi des hôtels de luxe, occupent une place de choix dans la lutte des civilisations pour laquelle les islamistes se battent dès dimanche. Un profond malaise s'était instillé quant à la possibilité que la disparition du dernier lambeau du califat n'avait pas annihilé la force de frappe des terroristes de Daesh. Le mode opératoire de ces attaques suicides coordonnées avait lui-même toutes les caractéristiques des bains de sang perpétrés par l'organisation État islamique. Et hier donc, la confirmation est tombée via un communiqué de son agence de propagande. Le groupe djihadiste EI a revendiqué le carnage commis dimanche dernier au Sri Lanka, dont le bilan s'est encore alourdi, passant à 359 morts et au moins 500 blessés, soit l'un des attentats les plus meurtriers depuis le 11 septembre 2001. Alors, non seulement ce communiqué détaille avec précision le mode opératoire des attaques de dimanche, mais il précise par ailleurs les noms de guerre des combattants qui les auraient commis. Sur une photo en particulier, 8 hommes, dont 7 au visage couvert et 3 portant des couteaux, posent devant la bannière noire aux inscriptions blanches de l'EI. Quoi qu'il en soit, sur les 9 kamikazes, dont une femme, qui ont commis ces attentats, 8 ont été pour le moment identifiés. Selon le vice-ministre de la Défense, la plupart des assaillants étaient bien éduqués, financièrement indépendants et venaient de familles de classe moyenne, voire supérieure. Les précisions de l'envoyé spécial de RFI pour France Culture, Sébastien Farcy.
Ils sont riches, éduqués et certains ont même vécu en Occident. Voici en quelques mots l'esquisse du profil des terroristes dressé ce matin par le ministre adjoint de la Défense. Selon lui, la police a identifié 8 des 9 terroristes, dont l'un est en fait une femme, et ils sont tous Sri Lankais. Un des kamikazes a été à l'université en Angleterre avant de poursuivre un master en Australie. 2 autres sont des frères, originaires d'une famille aisée de commerçants d'épices de Colombo. Dans l'ensemble donc, dit le ministre, ils sont bien éduqués et viennent de la classe moyenne supérieure. Leur acte de barbarie n'a donc rien, à première vue, d'une révolte de populations de musulmans pauvres et opprimés. Et c'est d'ailleurs un profil assez commun de terroristes islamistes contemporains qui sont radicalisés lors de leur voyage à l'étranger et de leur contact avec des mouvements extrémistes du Moyen-Orient et qui ont surtout les moyens d'organiser de telles attaques. C'est pour cela que beaucoup au Sri Lanka parlent d'un terrorisme importé, car la communauté musulmane locale, elle, ne se reconnaît pas dans cette hostilité envers les chrétiens. Il n'y a d'ailleurs jamais eu de conflit de la sorte entre ces 2 minorités du pays.
Alors, selon les autorités, deux obscurs groupes islamistes locaux, l'un sri-lankais et l'autre indien, seraient responsables de ces attentats coordonnés, mais pourraient avoir bénéficié d'un soutien logistique international, voire même avoir agi en tant que sous-traitant de l'organisation terroriste EI. D'où cette question. Ces attaques sont-elles le signe de la résilience du groupe djihadiste en déroute au Moyen-Orient? À tout le moins, elles démontrent que l'organisation terroriste peut encore semer la mort au-delà des frontières de son ancien califat. Et puis l'autre question est évidemment de savoir si les autorités sri-lankaises auraient pu éviter le carnage de dimanche dernier. La communauté des analystes spécialisés dans le terrorisme en Asie estime que oui, elles auraient dû être alertées par de nombreux indices et notamment sur l'internet. Les précisions à Singapour de Carrie Newton.
La veille des 8 attaques à la bombe au Sri Lanka, un message annonciateur avait été posté sur un groupe de la messagerie cryptée Telegram. En fond d'image, Notre-Dame de Paris. Par-dessus, une citation « Les jours sanglants de vos églises arriveront bientôt ». De Singapour à Auckland, les analystes spécialisés dans le terrorisme s'interrogent sur le manque de communication entre les services secrets et les forces de police sur le terrain. Même s'il est difficile par nature de géolocaliser ces interventions, les langages utilisés permettent de traquer les messages de haine et les rattacher à des zones plus précises. Et pour eux, il ne fait aucun doute que Daesh a multiplié interventions et invitations aux attaques depuis sa dernière grande défaite en mars dernier dans le Levant et interpelle particulièrement les extrémistes asiatiques. D'une part, Daesh sait que les attaques contre les églises, un de ses objectifs principaux, sont courantes en Asie et donc faciles à encourager. En janvier dernier, une bombe a tué 22 paroissiens dans une église de Jolo aux Philippines. En mai 2018, ce sont 3 bombes qui ont explosé dans une église de Surabaya en Indonésie. D'autre part, Daesh sait que de nombreux de ses anciens combattants rentrent au pays en ce moment et veut les utiliser en relais, un véritable défi pour ces pays asiatiques qui comptent une majorité de musulmans comme la Malaisie ou l'Indonésie, d'autant que l'ASEAN n'a pas mis en place de coordination optimale en matière de sécurité interfrontière.
Le nombre de victimes civiles du conflit en Afghanistan lors du premier trimestre a diminué de près d'un quart par rapport à la même période l'an dernier. C'est ce qu'indique un rapport de l'ONU publié aujourd'hui. Cette diminution s'expliquerait non seulement par la baisse du nombre d'attaques suicides, mais aussi un hiver inhabituellement glacial, sans oublier une série de rencontres entre représentants américains d'un côté et talibans de l'autre dans le cadre d'un processus visant à mettre fin à ce conflit qui dure depuis plus de 17 ans. En revanche, et pour la première fois depuis que l'ONU a commencé à effectuer ce recensement morbide, les attaques aériennes menées par les forces pro-gouvernementales et américaines ont coûté la vie à davantage de civils que les attaques perpétrées par les groupes insurgés. En Égypte, sans surprise, le référendum organisé en un temps record sur la révision constitutionnelle prolongeant la présidence de l'ex-maréchal Al-Sisi a été approuvé à une écrasante majorité, 88,8% des chiffres, sur lesquels plusieurs figures de l'opposition ont d'ores et déjà émis des doutes, certains accusant notamment le gouvernement d'avoir détourné de l'argent public pour acheter des voix. En réalité, le seul vrai enjeu résidait dans le taux de participation. Or, il ressort qu'à peine plus de 4 électeurs sur 10 se sont déplacés dans les bureaux de vote. Quoi qu'il en soit, cette révision constitutionnelle prend donc effet immédiatement, ce qui signifie qu'au-delà de la possibilité désormais offerte au président Al-Sisi de se maintenir en poste jusqu'en 2030, celui-ci voit également son pouvoir autoritaire se renforcer automatiquement et dangereusement à travers non seulement un contrôle accru de la justice, mais aussi l'institutionnalisation du rôle politique de l'armée. Et puis, après avoir ainsi assuré sa mainmise sur l'Égypte, Abdel Fattah Al-Sisi s'attaque désormais à l'Afrique. Depuis le mois de février, il occupe pour un an le poste de président de l'Union africaine, un rôle qu'il entend bien mettre au service de son influence sur le continent, à commencer par deux crises majeures aux frontières de l'Égypte, le conflit en Libye d'une part et la transition politique au Soudan d'autre part. Hier, à l'initiative donc de Sisi l'Africain, un sommet extraordinaire des dirigeants du continent se tenait au Caire pour traiter de ces deux dossiers sensibles. Au total, 6 dirigeants, de même que le président de la Commission de l'Union africaine, y ont participé. Un véritable tour de force donc pour le raïs égyptien, lequel est parvenu à imposer son agenda. Les précisions au Caire de Martin Roux.
Pour avancer ses pions en Libye et au Soudan, Abdel Fattah Al-Sisi a endossé hier son costume de président de l'Union africaine. Au Soudan, il voit d'un mauvais œil la pression des manifestants sur le Conseil militaire de transition. Il vient donc d'offrir un sérieux gage à l'armée soudanaise. Comme l'Égypte en 2013, le Soudan risquait une suspension de l'Union africaine. Mais le président El-Sisi a obtenu un délai de 3 mois accordé au Conseil militaire pour transférer le pouvoir aux civils. Un soutien naturel pour l'ex-maréchal, qui s'assure aussi des alliés dans la reconfiguration politique imprévisible en cours chez son voisin du Sud. À l'ouest de l'Égypte, le conflit en Libye est tout autant imprévisible et le président égyptien était aussi à la manœuvre hier. L'offensive du général Khalifa Haftar sur Tripoli compromet les chances d'un processus politique pour sortir le pays du chaos. Mais aucune condamnation de la part du président El-Sisi. Au contraire, il a insisté sur la nécessité d'éradiquer le terrorisme en Libye, un argument pour défendre son allié le général Haftar, qui a d'ailleurs reçu par le passé des livraisons d'armes en provenance de l'Égypte. Le président El-Sisi vantait hier des solutions africaines aux problèmes africains, mais c'est en réalité les solutions égyptiennes qui ont progressé lors de ce sommet.
En Algérie, au lendemain de la mise en détention provisoire d'Issad Rebrab, première fortune du pays, le patron du géant des hydrocarbures Sonatrach a été limogé, ou quand Abdelmoumen Ould Kadour devient la nouvelle victime de l'offensive judiciaire lancée contre les puissants patrons du pays. La Cour supérieure de justice du Brésil, deuxième plus haute juridiction du pays, a ramené à 8 ans et 10 mois la peine de prison prononcée contre l'ex-président Lula. Les 4 magistrats ont jugé trop sévère la condamnation de 12 ans de réclusion infligée l'an dernier en appel à l'ancien chef d'État. Nathanaël Charbonnier, bonjour.
Bonjour.
Rappelons tout d'abord que Lula a été placé en détention en avril 2018 pour des faits de corruption, déclaré inéligible pour la présidentielle d'octobre dernier. Lui a toujours nié toute malversation et cette décision, Nathanaël, peut-elle ouvrir désormais la voie à un aménagement de sa peine?
Vous savez Thomas, il y a des moments où l'on est vraiment content de savoir que le conditionnel existe dans la langue française, parce que cela permet de mettre des bémols. Alors oui, dans cette affaire de condamnation pour corruption, Lula pourrait espérer sortir rapidement de prison. La peine a été réduite de 12 ans à 8 ans et si la réduction de peine est confirmée, alors Lula, qui aura exécuté un sixième de sa peine, pourra se retrouver en semi-liberté, dehors la journée et en prison la nuit. Il pourrait, mais, parce qu'évidemment il y a un mais ce n'est pas gagné, car Lula doit aussi batailler dans une autre affaire de corruption dans laquelle on l'accuse d'avoir réalisé des travaux dans une de ses propriétés. Dans cette deuxième affaire, il a été condamné à nouveau à de la prison. 12 ans et 11 mois, un jugement en première instance dans lequel il a fait appel, car Lula a toujours contesté les faits qui lui sont reprochés. Si Lula est condamné dans cette deuxième affaire, alors cela remettrait en question le régime de semi-liberté qu'il pourrait obtenir dans la première affaire. Donc beaucoup d'incertitudes et beaucoup de rebondissements à attendre. Cela dit, le problème n'est pas là. Le problème, vous savez, il est politique. Lula, c'est la bête noire du nouveau président Bolsonaro. Il a juré sa perte et il fera tout pour le maintenir en prison. Tout simplement parce que Lula fait peur à la droite brésilienne et à l'extrême droite. Lula, même affaibli, même en prison, reste une idole pour de nombreux Brésiliens. C'est le leader charismatique de la gauche et une fois dehors, une fois libre, il pourrait redevenir dangereux politiquement. Vous le voyez, dans ce dossier, il y a vraiment beaucoup de conditionnels.
Merci Nathanaël Charbonnier. 4 figures de proue de la révolte des parapluies, le mouvement pro-démocratie de Hong Kong, ont été condamnées ce matin à des peines de prison ferme pour leur responsabilité dans les manifestations monstres qui avaient non seulement paralysé, c'était en 2014, l'ex-colonie britannique, mais plus encore courroucé Pékin. Leur procès a été dénoncé par les défenseurs des droits humains. Deux d'entre eux, deux des fondateurs du mouvement Occupy Central, ont écopé des peines les plus longues, 16 mois de détention, déclenchant les peurs et les pleurs et les cris de colère de centaines de leurs partisans rassemblés à l'extérieur du tribunal. Elle n'avait jamais connu la déflagration des bombes ni les assassinats ciblés. Et pourtant, sa mort résonne bel et bien comme la réémergence des démons de l'histoire de la province britannique d'Irlande du Nord. Les funérailles de la jeune journaliste Lyra McKee, martyre de la nouvelle IRA, tuée jeudi dernier lors d'affrontements avec la police à Londonderry, seront célébrées cet après-midi. Ses relations avec le reste des leaders de l'opposition de gauche ont beau être tendues à l'image des invectives échangées ces dernières semaines avec la tête de liste Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, mais aussi la tête de liste du Parti Communiste, Yann Brossa, ou bien encore le premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure. Le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, entend unir la gauche dans une grande fédération populaire. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Dans un entretien au journal Libération ce matin, Jean-Luc Mélenchon dit vouloir effectivement rassembler donc la gauche, si toutefois les Européennes lui en donnent la force.
Oui, dans ce long entretien au journal Libération ce matin, Jean-Luc Mélenchon acte le fait que la proposition qu'il avait faite l'année dernière de fédérer les formations politiques en recréant une sorte de front populaire a fait long feu, que ce n'est pas possible. À chaque fois qu'il l'a proposé, la vieille gauche l'a envoyé balader, explique-t-il, parce que selon lui, cette vieille gauche n'accepte pas la réalité, c'est-à-dire la centralité de la France insoumise. Il considère que depuis l'élection présidentielle de 2017, ce n'est plus le Parti Socialiste qui occupe cette place centrale à gauche, c'est lui, Mélenchon, et son projet politique. C'est la raison pour laquelle il ne propose plus de créer un front populaire, mais une fédération du peuple, une fédération populaire qui permettrait d'accueillir non plus les mouvements politiques, mais les militants, les sympathisants et les électeurs qui se revendiquent de la mouvance de gauche. C'est pour ça qu'il dit « si l'élection nous en donne la force, nous assumerons à nouveau notre responsabilité ». En fait, il espère profiter du scrutin européen pour recevoir à nouveau l'onction populaire qu'il estime avoir reçue il y a 2 ans, au moment de la présidentielle, avec 19,5% des voix. Pour Mélenchon, c'est simple, la centralité, elle est arithmétique, mathématique. La formation politique qui arrive en tête occupe la position centrale et du coup dicte sa loi à toutes les autres. Mais il fait une confusion avec le fait que la centralité en politique, ce qui permet de faire corps, ce qui permet de faire masse, ça a toujours été le positionnement idéologique. Il faut être en mesure de faire des compromis et de passer des accords, autrement dit, de mettre un peu d'eau dans son vin pour qu'il soit buvable par tout le monde. Or, pour Mélenchon, et c'est ce qu'on peut voir dans cette interview, il n'y a pas de compromis possible et il n'y a pas d'autre vin consommable que celui qu'il donne à boire aux insoumis.
Merci Stéphane Robert. À quoi ressemblera Notre-Dame après sa reconstruction depuis ce matin? Le projet de loi sur l'encadrement des dons pour la cathédrale, mais aussi les modalités du concours international pour reconstruire la flèche, est présenté en Conseil des ministres. Et nul doute que sur la grande table de réunion de l'Élysée figurera aussi en bonne place le canard enchaîné daté de ce mercredi, dans lequel sont listées toutes les bévues qui ont précédé l'incendie des responsables de la cathédrale, qui ont mis 35 minutes pour alerter les pompiers aux mesures de prudence édictées par les architectes et qui visiblement n'étaient pas respectées, jusqu'au fil électrique qui courait dans la charpente, placé à la demande express du clergé au risque du court-circuit. C'est d'ailleurs là la nouvelle piste révélée donc par l'hebdomadaire satirique s'agissant des causes possibles de l'incendie des cloches électrifiées dans la charpente de la cathédrale. Antoine Marette a joué au téléphone Hervé Liffrand, journaliste au canard enchaîné à l'origine de cette révélation.
Nous sommes aperçus que dans les toits de Notre-Dame, il n'y avait pas que du bois, il y avait aussi des fils électriques. Et ce, en violation de toutes les règles édictées par tous les architectes des monuments historiques qui ont travaillé sur Notre-Dame de Paris. Et ces fils électriques, ils ont été installés pour électrifier des cloches, alors que ça n'aurait jamais dû être le cas. Il y avait des cloches dans la flèche de Notre-Dame, 3 cloches, et il y avait 3 cloches sous les voûtes de Notre-Dame, au-dessus de la clé du transept. Et ces cloches du transept ont été électrifiées en 2007, apparemment de façon un peu clandestine, puisque personne n'a retrouvé de traces d'autorisation qui auraient été données. Et celles de la flèche ont été électrifiées à titre temporaire en 2012. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on était entamé de grands travaux sur les bourdons de Notre-Dame et le clergé ne voulait pas que la cathédrale reste muette. Et donc, ils ont fait le siège de la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, pour obtenir une autorisation d'électrifier. Et l'État, donc la Direction Régionale des Affaires Culturelles, a dit oui, mais à titre provisoire. C'est-à-dire que dès que les travaux sont terminés, tout doit être démonté. Or, rien n'a été démonté. Et les cloches de la flèche, par exemple, ont sonné à 18h04, 12 minutes avant que ne sonne la date incendie. Donc, chaque fois que vous sonnez les cloches, vous envoyez du courant dans le fil, et donc c'est une piste qui aurait pu provoquer le début d'incendie, même si aujourd'hui, ce n'est qu'une piste.
Si cette piste se révélait exacte, qui serait responsable ?
À ce moment-là, il y a une double responsabilité. Une responsabilité au niveau de ceux qui doivent assurer la surveillance de Notre-Dame, pourquoi on n'a pas démonté les cloches provisoires, comment on a pu laisser faire des travaux un peu clandestins pour électrifier les cloches de la voûte, et puis d'autre part, pourquoi, bon Dieu, le clergé a-t-il voulu à tout prix avoir ces cloches électrifiées ?
Voilà, Hervé Liffrand, journaliste au canard enchaîné, il répondait à Antoine Marette. Après les premières révélations du canard enchaîné, toujours lui, c'était la semaine dernière sur les soupçons de fichage de gilets jaunes dans les services d'urgence de l'assistance publique hôpitaux de Paris. L'AP-HP avait rejeté ces accusations, sauf que ce matin, l'hebdomadaire publie des extraits de ce fameux fichier prouvant qu'il comporte bien des informations sur les manifestants admis dans les hôpitaux parisiens, des données relevant du secret médical. Et pour en parler avec nous, aujourd'hui invité de la rédaction, Gérald Kierzek, médecin urgentiste aux hôpitaux de Paris. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Roméo Van Maastricht. Bonjour, bonjour Roméo. Monsieur Kierzek, vous avez été l'un des premiers à dénoncer ce fichage des manifestants gilets jaunes dans plusieurs tweets. C'était la semaine dernière. Aujourd'hui, le canard qui a eu accès donc au fichier indique qu'en plus du nom, du sexe, de la date de naissance ou de l'adresse, les médecins et les soignants recueillent également la nature des blessures jusqu'aux habits des manifestants. Est-ce plus grave encore que ce que vous imaginiez?
Ah ben oui, moi je suis effrayé. Le 13 avril, quand j'ai pris une garde de samedi, c'était la première garde de samedi. D'habitude, je prends les dimanches ou les jours de semaine. Quand l'administrateur de garde me demande de lui signaler les gilets jaunes, je lui demande mais pourquoi? Ben comme d'habitude, pour remplir un fichier. Je dis mais quel fichier? Ça n'a rien à voir avec le dossier médical. On a un dossier médical, il y a les numéros de sécu, les infos de facturation. Là, c'est autre chose. C'est un fichier parallèle qu'on me demandait de remplir. Évidemment, je n'ai pas rempli. C'est là où j'ai fait ce tweet en disant c'est une violation du secret professionnel. Et ben j'en découvre un peu plus tous les jours. Le 14 avril, dans une interview, le directeur général, M. Hirsch dit bah non, il n'y a pas les noms et prénoms. Le 20 avril, il y a les noms et prénoms parce que le canard enchaîné sort son premier article. Et puis là, je suis vraiment effaré de voir qu'il y a des données d'identification, nom, prénom, mais des données médicales, c'est-à-dire une plaie de l'arcade sourcilière, un tir de flashball dans l'œil, bref, des choses qui n'ont rien à faire dans un fichier parce que tout ça est couvert, encore une fois, par le secret médical, le secret professionnel qui est une valeur intangible.
Et justement, en 2017, la CNIL et la Commission nationale de l'informatique et des libertés avaient autorisé l'existence de ce fichier à condition que les établissements de santé informent les blessés que leurs données personnelles étaient collectées. Est-ce que c'est le cas actuellement? Est-ce qu'on dit aux blessés que leurs informations sont collectées?
Bah, manifestement non, parce qu'il y a même un blessé qui a porté plainte. Et puis surtout, la CNIL avait autorisé ce fichier en cas d'événement sanitaire exceptionnel. Et c'est un fichier qui est utilisé pour les attentats. C'est un fichier de médecine de catastrophe. Il y a un événement exceptionnel. On déclenche une cellule de crise et on déclenche ce fichier. Et ce fichier, donc le fichier est a posteriori de l'événement. Là, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il est en préventif, entre guillemets. Deuxièmement, il n'y a pas forcément des données médicales qui sont données dedans, mais c'est des données de traçabilité. Et puis, vous l'avez rappelé, il faut informer les patients. C'est un droit fondamental des patients. Imaginez-vous, vous arrivez aux urgences pour un problème, on ne parle pas de gilet jaune, mais d'un problème médical, vous n'avez pas envie que ces données médicales partent n'importe où, remontent n'importe où, dans d'autres ministères en particulier, et puis remplacer gilet jaune par couleur de peau, par religion. Enfin, on est sur des choses qui sont complètement illégales, ou en tout cas, moi, mon point de vue, il est déontologique, et là, ça enfreint ma déontologie.
Est-ce que vous pensez justement que ces données ont pu être exploitées par des professionnels hors du champ du soin ou de la médecine ?
Écoutez, moi, j'en sais rien. C'est-à-dire qu'on me demande de faire quelque chose qui est antidéontologique. Et si c'est antidéontologique, c'est parce que le secret professionnel, c'est important. Parce que, à partir du moment où on donne dans un fichier des données médicales, des données d'identification à un instant T, que la direction nous demande de remplir en temps réel, et que ce fichier part potentiellement, je lis le canard enchaîné aussi, au ministère de la Justice, au ministère de l'Intérieur, vous voyez bien que la description, il y a même des journalistes qui sont fichés dans l'extrait qu'on voit. Vous voyez bien que la description à la fois des blessures, de la tenue vestimentaire et l'appartenance aux manifestants, par exemple, tout ça remonte en temps réel, je ne sais où, mais manifestement au ministère de l'Intérieur. On voit bien que le lien peut être fait extrêmement rapidement et que des gens pourraient être cueillis, et encore une fois, en dehors du problème des gilets jaunes, hein, pourraient être cueillis dans les hôpitaux. Et ça, c'est pas mon métier. Je suis soignant, je ne suis pas un collaborateur de la police. La police, c'est son métier, je ne suis pas un collaborateur des renseignements généraux.
Et on terminera par ces mots. Merci Gérald Kierzek, médecin urgentiste aux hôpitaux de Paris, d'avoir répondu à nos questions. Et merci également à Roméo Van Maastricht. J'ajoute par ailleurs que le Conseil national de l'Ordre des médecins a saisi le ministère de la Santé et la CNIL donc sur l'utilisation de ce fichier.
C'est pas sérieux, mon amour. Ça va faire 4 nuits, 4 jours que nous n'avons pas mis le nez.
Avec sa célèbre coiffure banane à jamais noire de jet et ses bottes de cowboy, il était une figure du rock'n'roll à la sauce française. Dick Rivers est décédé aujourd'hui. À l'âge de 74 ans, né Hervé Fornery, il avait fondé les Chats Sauvages à l'âge de 15 ans avant que le rêve américain ne lui fasse tourner la tête et même changer de nom en adoptant celui d'un personnage joué par Elvis Presley, le King, dont il dira après l'avoir découvert chanter « J'ai trouvé Dieu ». Je vous propose d'écouter Dick Rivers dans « Chanson Boom » d'Hélène Azéra sur France Culture. C'était le 25 mars 2012. Il revenait sur ses influences et son parcours nourri par sa culture familiale et locale aux accents à la fois américains et italiens.
J'avais une double chance dans ma jeunesse, c'est que premièrement, j'ai toujours vécu avec, à côté, à Villefranche-sur-Mer, une base américaine. Donc à Nice, c'était bourré d'Américains qui avaient leur culture. Donc c'est comme ça que j'ai découvert un peu avant tout le monde cette musique, parce qu'ils amenaient avec eux leur civilisation. Et parallèlement, on avait bien sûr les influences italiennes. C'est-à-dire qu'il y avait des chanteurs comme Adriano Celentano, Little Tony, tout ça, qui faisaient du rock, déjà en italien ou en anglais. Et à cette époque-là, le rêve était américain. Le cinéma, 80% des films qu'on allait voir étaient des films de série B américaine, des westerns. Et au milieu de tout ça, il y avait cette musique qui nous touchait et on voulait surtout pas écouter ou réécouter ce que nos parents écoutaient. Et si tout était à recommencer, je recommencerais pareil parce que c'est ces racines-là qui ont fait la personnalité que j'ai aujourd'hui. Je me suis jamais déguisé. En réalité, je suis ce que j'étais quand j'avais 13, 14, 15 ans, quoi. Mais je suis quelqu'un de très, très simple.
Dick Rivers, invité d'Hélène Azéra sur France Culture dans Chanson Boom. C'était le 25 mars 2012. Dick Rivers, donc, dont on a appris le décès ce matin à l'âge de 74 ans. Un mot rapide de météo pour terminer. Temps perturbé cet après-midi sur la plupart des régions avec de la pluie et du vent. Les températures, elles seront généralement comprises entre 16 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.